Donc c'est une phrase de Jésus, hein, l'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Alors on va commencer par situer ces paroles de Jésus dans leur contexte. Hein, donc c'est dans le chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean. Et donc c'est le discours d'adieu de Jésus à ses apôtres, au Cénacle, hein, le jeudi saint au soir. Hein. Et donc ça fait partie des dernières paroles que Jésus laisse à ses apôtres. Il les prépare à son départ. Hein, voilà, et au temps où lui-même ne sera plus présent physiquement au milieu d'eux pour les enseigner. Alors on va écouter ces paroles avec les versets qui les entourent. Jésus dit à ses apôtres, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. » C'est Saint Jean, chapitre 16, les versets 12 à 14. Donc on peut retenir de ces paroles de Jésus trois points. D'abord, c'est que Jésus avait encore beaucoup de choses à dire à ses apôtres, mais il ne pouvait pas les porter alors. Donc, deuxième élément, c'est l'Esprit Saint qui plus tard conduira les apôtres vers la vérité tout entière. Et troisième élément, l'Esprit Saint ne dira rien de nouveau, mais il prendra du bien de Jésus pour le dévoiler. Donc c'est à partir de ces paroles qu'on va réfléchir. En deux temps, d'abord on va se poser la question de savoir est-ce que la révélation est achevée ? Voilà. Et puis comme on répondra oui, dans la deuxième partie, on verra comment, de quelle façon, néanmoins, on doit continuer à l'approfondir et comment il y a toujours une croissance dans la compréhension de la révélation. Donc première partie, comme la révélation est-elle achevée ? Donc d'abord, la lettre aux Hébreux commence ainsi. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Et le catéchisme de l'Église catholique commente ce prologue de la lettre aux Hébreux ainsi, en disant que le Christ, qui est Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout. Et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. Donc, et c'est l'enseignement du Concile Vatican II, Jésus est la plénitude personnelle de la révélation, et puisqu'il est Dieu qui est venu lui-même nous parler, il est le Verbe, la parole, donc en Jésus, Dieu nous a tout dit. Donc la révélation est achevée, et comme le dit aussi le Concile, il n'y a plus de révélation publique qui soit maintenant à attendre. Pourtant, donc, continue le catéchisme, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. C'est pour ça que Jésus va promettre l'Esprit Saint. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. On a commencé hier à voir le début de ce développement, hein, jusqu'au premier concile œcuménique. Donc s'il n'y a plus de choses nouvelles à révéler à proprement parler, il y a quand même à approfondir notre compréhension, notre intelligence de la révélation. Et donc cet accroissement est même un devoir. Hein, cette compréhension, cet approfondissement de la compréhension est à rechercher. Hein, et c'est un devoir pour tous les croyants qui, à la foi, doivent allier la raison. Alors bien sûr, il y a l'assistance de l'Esprit-Saint, on va y revenir, surtout dans la deuxième partie. Mais l'effort des croyants est nécessaire. Et le cardinal Ratzinger a eu des mots très vigoureux pour parler de cet effort des croyants. Voici ce qu'il disait. La foi est intrinsèquement, comme disent les pères, coerens intellectum, donc à la recherche d'une intelligence. L'intelligence, donc le fait de s'intéresser de façon rationnelle à la parole qui nous a été donnée, appartient d'une manière constitutive à la foi chrétienne. Cette foi chrétienne donne nécessairement origine à une théologie. Cela différencie du reste la foi chrétienne de toutes les autres religions. La théologie est un phénomène spécifiquement chrétien qui jaillit de la structure de cette foi. On l'évoquait hier avec l'islam, on ne réfléchit pas sur le Coran. Le cardinal Ratzinger dit que le fait de réfléchir sur la révélation pour, avec l'aide de l'Esprit-Saint, approfondir sa compréhension, ça fait partie de la foi chrétienne et c'est un devoir pour un croyant d'approfondir avec sa raison ce qui est révélé par Dieu. Donc l'Église a la mission, le devoir de chercher, en se mettant à l'écoute de l'Esprit-Saint, à expliciter et à développer ce que Dieu a révélé. Dans son exhortation sur la parole de Dieu, en reprenant les pères de l'Église, Benoît XVI dit que en s'incarnant, la parole, le verbe, s'est en quelque sorte abrégé, et donc en quelque sorte il s'agit maintenant de la déployer. Mais ce déploiement de la révélation ne peut se faire que de façon harmonieuse, et pour reprendre un mot que Benoît XVI aime beaucoup, dans la continuité. Le Père, pour exprimer ça, notre fondateur, n'aimait pas beaucoup le terme d'évolution, parce que le mot évolution implique une idée de changement, tandis que le terme de développement implique davantage une continuité. Et on a pris très tôt conscience dans l'Église de cette continuité avec laquelle devait se développer le dogme. Et la tradition nous a gardé un texte magnifique de saint Vincent de Lérins qui exprime ça avec une grande précision et de façon très accessible. Donc on va le citer un peu longuement. Saint Vincent de Lérins est mort en l'an 450, donc c'est très tôt. Alors je le cite un peu longuement. Il se pose la question, ne peut-il y avoir dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion ? Si, assurément, et un très grand. À condition du moins qu'il s'agisse d'un véritable progrès dans la foi et non d'un changement. Car il y a progrès si une réalité s'amplifie en demeurant elle-même. Mais il y a changement si elle se transforme en une autre réalité. Il faut donc qu'en chacun et en tous, en chaque homme aussi bien qu'en l'Église entière, au cours des âges et des générations, l'intelligence, la science et la sagesse croissent et progressent fortement, mais selon leur genre propre, c'est-à-dire dans le même sens, selon les mêmes dogmes et la même pensée. Que la religion imite donc la croissance des corps, dont les éléments évoluent et se développent au rythme des années, mais demeurent eux-mêmes. Rien de nouveau ne se manifeste chez le vieillard, qui n'est d'abord été en germe chez l'enfant. Donc, voilà, saint Vincent de Lérins, dans ce texte, insiste beaucoup sur la continuité. Il y a vraiment une progression dans la compréhension de la révélation, mais toujours dans la continuité. Et Joseph Ratzinger synthétisait cela ainsi, en disant « La tradition bien comprise signifie le dépassement de l'instant présent dans les deux directions, donc le passé et le futur ». Ça veut dire qu'on assume le passé, voilà, qui n'est pas dépassé, mais on reste en continuité. Et en même temps, on demeure ouvert à des approfondissements futurs qui eux-mêmes seront en continuité avec l'aujourd'hui de l'Église. Alors, deuxième partie, la croissance dans l'intelligence, dans la compréhension du dépôt de la foi. Donc il peut et il doit y avoir un progrès dans la compréhension de la foi, non pas dans la rupture, mais dans la continuité. Donc, comment et par qui se réalise ce progrès qui est porté par la tradition ? Un premier point, donc, l'Esprit-Saint assiste l'Église. Le Seigneur a promis à l'Église son assistance, l'assistance de l'Esprit-Saint pour expliciter la révélation et pour grandir dans sa compréhension. Concrètement, comment cette intelligence grandit-elle ? Le catéchisme de l'Église catholique nous donne un peu les modes concrets. Il nous dit « par la contemplation et l'étude des croyants qui méditent dans leur cœur ». En particulier, la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la vérité révélée. Une autre façon aussi, c'est par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles. Encore par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Donc en promettant à l'Église son Esprit Saint, hein, pour la conduire vers la vérité tout entière, Jésus a donné à l'Église un charisme d'infaillibilité, dit le Concile Vatican II, qui est une participation à sa propre infaillibilité, à lui, Jésus, qui est la vérité. Alors comment s'exerce ce don de l'infaillibilité ? Donc d'abord, le deuxième point, on va parler du sensus fidei, le sens de la foi. Donc ce charisme d'infaillibilité a été confié à l'Église dans son ensemble. Donc on appelle le sens de la foi, sensus fidei, ou bien le sens des fidèles, ça se rejoint, le sensus fidelium. C'est la participation qu'a l'ensemble des fidèles à la transmission de la vérité révélée. Voici ce que dit aussi le catéchisme à la suite du concile. L'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi et manifeste cette qualité par le moyen du sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple entier lorsque, des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, il apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Alors, ce sensus fidei est très important, hein, mais il est important de ne pas faire de contresens sur ce qu'il est profondément. Et cette année, la Commission théologique internationale a donné un texte sur les perspectives pour la théologie aujourd'hui. Dans ce texte est évoqué justement ce sens de la foi, et Benoît XVI l'a repris dans un discours qu'il leur a adressé au mois de décembre. Et il reprenait ce que disait la Commission en disant ceci. Aujourd'hui, toutefois, il est particulièrement important de préciser les critères qui permettent de distinguer le sensus fidelium authentique de ses copies contrefaites. En réalité, celui-ci n'est pas une sorte d'opinion publique ecclésiale et il n'est pas pensable de pouvoir le mentionner pour contester les enseignements du magistère. Car le sensus fidei ne peut se développer authentiquement chez le croyant que dans la mesure où il participe authentiquement à la foi de l'Église, pleinement à la foi de l'Église. Donc le sensus fidei doit prendre en considération la foi de l'Église. Dans le catéchisme, on dit que c'est l'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi, des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs. Donc c'est lorsqu'il y a un consentement universel, à la fois dans la dimension synchronique, c'est-à-dire dans toute l'Église aujourd'hui, dans toutes les cultures différentes, mais aussi dans la dimension diachronique, c'est-à-dire à travers l'histoire de l'Église. Et donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a 51% des fidèles qui pensent quelque chose aujourd'hui que c'est le sensus fidei. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en continuité avec aussi toute l'histoire du développement de la compréhension de la révélation. Alors ça n'exclut pas le fait que le sensus fidei, à travers les croyants, à travers les théologiens, à travers les mystiques, puisse parfois devancer ou préparer même certaines définitions du magistère, sans jamais être en contradiction avec lui. Mais c'est le cas, par exemple, pour le dogme de l'Immaculée Conception, qui n'a été défini dogmatiquement par le magistère qu'en 1854, et dont des pères de l'Église parlaient déjà au 5e, 6e siècle. Et petit à petit, la réflexion sur ce dogme s'est développée jusqu'à arriver à un consentement universel. Donc ça, c'est un bel exemple du sensus fidei. Et puis un troisième petit point, c'est que pour effectuer ce discernement dans ce charisme d'infaillibilité qui, à l'origine, est confié à l'ensemble de l'Église, Dieu a confié aussi ce charisme d'infaillibilité collégialement aux évêques et personnellement à Pierre et à ses successeurs, donc au pape. Et donc c'est une partie de la mission du magistère qui a justement pour rôle de veiller à ce que le peuple de Dieu reste dans la vérité Et donc, pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs d'un charisme d'infaillibilité. Alors, l'exercice concret de ce charisme d'infaillibilité peut revêtir plusieurs modalités. On ne peut pas le développer maintenant. Mais il est clair que Dieu accorde l'assistance de son Esprit-Saint au pape et aux évêques qui enseignent en communion avec le pape, hein, qui forment le magistère de l'Église, et dont la première mission est d'enseigner au nom de Jésus. Et il y a dans l'Évangile cette parole de Jésus à ses apôtres qui est très impressionnante, hein, « qui vous écoute, m'écoute ». Donc en écoutant les apôtres qui sont en communion avec Pierre, et donc on écoute Jésus lui-même. Donc l'Écriture, qui est la parole de Dieu, la tradition qui en est en quelque sorte l'explicitation, le développement, et le magistère qui est au service de la parole de Dieu, sont, dans ce développement, sont inséparables. Voici ce que dit le Concile Vatican II. Il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que toutes ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit-Saint, contribuent efficacement au salut des âmes. Donc c'est cette triade très importante dans le développement du dogme, hein, écriture, tradition et magistère. Et donc pour aider à cette croissance dans l'intelligence de la révélation, l'Église, à travers son magistère, au cours du temps, hein, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, a défini des dogmes. Alors les dogmes sont des vérités que le magistère a reconnues comme étant contenues dans la révélation elle-même, ou bien comme étant en lien nécessaire avec la révélation, comme en découlant nécessairement. Et c'est pourquoi les dogmes sont des doctrines. Je cite un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi, des doctrines que l'Église propose divinement, comme divinement et formellement révélées, et comme telles irréformables. Ces doctrines requièrent l'assentiment de foi théologale de tous les fidèles. Pour cette raison, qui les mettrait obstinément en doute ou les nierait, se mettrait dans une situation d'hérésie. Et le texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui est cité donne, parmi les exemples de ce type de doctrine, celle sur l'existence du péché originel, voilà, entre autres, il y en a plusieurs. Mais donc, voilà, les dogmes sont vraiment des vérités en lien nécessaire avec la révélation ou directement contenues dedans, hein, que l'on doit croire pour rester catholique. Et en même temps, inséparablement, puisque foi et raison, les dogmes sont aussi, on l'évoquait hier, Père Bernard l'évoquait hier à la fin du second forum, les dogmes sont des sommets de la pensée, hein, ou des moments où le langage humain a frôlé d'une façon unique le mystère divin. Hein, et le cardinal Ratzinger disait que une définition dogmatique, c'est un service rendu à la vérité, et que les dogmes, il a cette très belle définition, les dogmes sont des fenêtres ouvertes sur l'infini. Voilà. Où l'Église nous ouvre la fenêtre sur l'infini du mystère de Dieu. Et enfin, pour les dogmes, le catéchisme montre le lien intrinsèque qu'il y a entre les dogmes et la vie spirituelle, puisque toujours c'est lié aussi à la prière. Hein. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi, ils l'éclairent et le rendent sûr. Et inversement, si notre foi est droite, eh bien notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Donc en conclusion, Jésus, au moment de passer de ce monde à son Père, a promis à ses apôtres de leur envoyer l'Esprit-Saint pour les conduire vers la vérité tout entière. Et donc au cours des siècles, avec cette assistance de l'Esprit-Saint, l'Église a accru, a augmenté sa compréhension de la révélation qui néanmoins était complète et définitive en Jésus, hein, qui est le Verbe incarné. Et aujourd'hui, l'Église doit toujours poursuivre cet effort qui est exigé par sa foi. Cette recherche est le fait de la tradition. Jean-Paul II définissait la tradition comme une réalité vivante qui progresse en rapport avec les besoins et les problèmes de chaque époque, en approfondissant la compréhension de ce que contenait déjà la foi transmise une fois pour toutes. Et cette progression qui est voulue et qui est conduite par l'Esprit-Saint est le fait de toute l'Église et de tous ses membres qui sont guidés par le magistère qui pour cela jouit de l'assistance de l'Esprit-Saint. Et donc, dans cet approfondissement, on doit toujours avoir une confiance totale en l'Église, comme l'exprimait saint Ignace de Loyola avec l'expression « sentire cum ecclesia », toujours sentir, penser avec l'Église. Et voilà, pour ne pas, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, pour ne pas nous laisser balloter et emporter à tout vent de la doctrine.